Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, enfin mesdemoiselles, on peut plus le dire parce que ça n'existe plus dans le langage courant. Apparemment, les demoiselles n'existent plus. Donc on dit madame à une demoiselle de 12 ans, quoi. D'accord. Bonjour mademoiselle. on peut plus dire mademoiselle, donc je vous dis madame.
Mais moi je veux bien. Ce
bonjour Marie-Pierre. bonjour Madame Marie. Prudhomme, vous allez bien?
Ça va, merci. Vous.
Alors moi ça va aussi, ça va bien. Un petit peu de mal aux dents, mais bon voilà, c'est pas grave. De toute façon, on va aller chez le dentiste et on va arranger l'affaire.
Et voilà.
Je ferai arracher la tête tout de suite et puis ce sera bon.
C'est pas une bonne idée.
Madame Prudhomme, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet quand même qui va tenir à cœur à pas mal de personnes, puisque tous les jours, ben c'est le lot quotidien de nous, êtres humains. C'est d'un jour ou l'autre de passer de vie à trépas.
Voilà, et donc un sujet qui touche, comme vous dites, à vraiment beaucoup beaucoup de monde, c'est le deuil. Ça peut nous arriver à tout moment de la vie, de perdre une personne, de perdre un animal. Et donc on va aussi élargir l'idée de deuil qui peut être le fait de quitter une situation de vie dont on doit faire son deuil, où on est plus dans des transitions peut-être aussi à ce moment-là.
D'accord. Avant que nous commencions, donc pour les personnes qui se brancheraient peut-être pour la première fois sur Radio Hourtemblève, vous êtes à l'écoute de Madame Prudhomme, qui est hypnothérapeute. Elle a deux cabinets, un à Arzé. À Auris.
Et l'autre à Jemep.
Et ils fonctionnent tous les deux, donc, alternativement, je suppose.
Oui, voilà, oui. Je n'ai pas encore trouvé le système.
Système de pouvoir vous dédoubler.
En même temps. Donc, voilà, je suis certains jours de la semaine à Auris et d'autres à Jemep. Et les ateliers pour les troubles alimentaires, et eux, ils ont lieu à Jemep.
Voilà. Donc, si vous avez besoin de l'aide de Madame Prudhomme, vous vous formez le 0478 997 157, et vous prenez rendez-vous avec elle soit à Auris, soit à Jemep.
Voilà.
Et sachez quand même que c'est tous les mois, Madame Prudhomme, que vous organisez donc des ateliers.
Ah, c'est plus que ça. Donc ça, c'est le jeudi soir à Jemep. C'est généralement tous les 15 jours. Ça s'adresse à des personnes qui ont des difficultés au niveau du poids, au niveau du comportement alimentaire, des personnes qui mangent trop vite, qui sont coincées dans des systèmes de régime où on se prive et puis après on mange beaucoup.
Et on rattrape ce qu'on a perdu.
Et davantage d'ailleurs, hein, extra, on perd 5 kilos, on en reprend 7, sauf qu'il y a beaucoup plus de graisse dans ce qu'on reprend que de la masse musculaire. Et donc voilà, ça c'est, on travaille ça en hypnose et en nutrition.
En atelier, donc il y a plusieurs personnes en même temps, voilà, qui font partie, donc qui donnent leur expérience.
Alors il n'y a pas du tout de partage, ce n'est pas un système comme les alcooliques anonymes où on va raconter sa vie. Ici, ce n'est pas du tout ça, on ne raconte pas sa vie. On est là vraiment pour vivre des séances d'hypnose pour se sortir de ces troubles alimentaires et de difficultés comportementales.
Alors, pour bien faire comprendre encore à la personne qui vient peut-être de se brancher et qui nous écoute, ce n'est pas l'hypnose de Mesmer, hein. Donc voilà.
Voilà, on n'est pas.
Alors expliquez un petit peu, en quelques mots, dites-nous un peu en quoi consiste cette hypnothérapeute.
Donc l'hypnose, c'est un état naturel, c'est ça qui est vraiment important de pouvoir se dire, et dans cet état, on est dans une réceptivité accrue, et donc on peut utiliser des outils thérapeutiques qui vont permettre d'amener des changements qui sont durables, des changements qui vont impacter notre vie sur le long terme. Et donc on travaille avec l'hypnose différents types de thématiques. L'hypnose, c'est vraiment à considérer comme une langue, c'est la langue de l'inconscient, et pour utiliser cette langue, il y a différents outils thérapeutiques. Et on travaille, ben oui, les troubles alimentaires, on travaille toutes sortes de difficultés de vie. Ici, on va parler du deuil, mais la gestion du deuil par hypnose, c'est vraiment quelque chose qui est très très utile, qui va permettre de se reconstruire, de se guérir, entre guillemets, de cette blessure-là, de façon tout à fait tout à fait efficace. Et on travaille en profondeur. C'est vraiment un des aspects de l'hypnose, c'est le travail en profondeur.
D'accord. Alors, comme ça, c'est bien clair dans les esprits des auditeurs, ils ne vont pas chez vous et vous n'allez pas les endormir, vous n'allez pas les hypnotiser comme le fait Mesmer.
Voilà, ici, c'est une démarche qui est vraiment active. Moi, je n'hypnotise personne.
Personne, voilà.
Donc, on va parler d'hypnothérapie et hypnothérapie. C'est accompagner la personne pour qu'elle produise elle-même cet état de type hypnotique. Et c'est elle qui va bosser. C'est vraiment elle qui va travailler. C'est un travail de partenariat.
D'accord.
L'hypnose de spectacle, on est plus dans recevoir et une croyance que c'est l'autre qui fait tout, mais c'est absolument faux.
D'accord. On va entrer dans le vif du sujet, donc ce sujet qui concerne tout le monde, on peut le dire, hein. Tout le monde est concerné.
Oui.
Alors, Marie-Pierre, c'est vrai que lorsqu'on perd une personne ou un animal, parce que ça, c'est vrai qu'un animal, parfois chez certaines personnes, c'est aussi valable qu'un humain.
Oui, hein, ce sont des blessures qui peuvent être très très fortes quand on perd un animal. Et ça peut être assez incompréhensible pour des personnes qui n'ont pas, d'animaux et si elles ont perdu un être humain, peuvent trouver même indécent le fait d'être aussi atteint par la perte d'un animal. Mais ce sont des blessures qui peuvent être réellement là et on peut être très très mal par la perte d'un animal.
Madame Prudhomme, en quoi pouvez-vous aider les personnes qui ont perdu un proche ou un animal ?
Alors, c'est d'abord accompagner la personne dans la compréhension des différentes étapes du deuil. Donc, quand on vit un deuil, il y a différentes étapes qu'on peut vivre, chacun à sa façon. Ces étapes, elles ont été décrites par Elisabeth Kübler-Ross, qui est une psychiatre américaine, qui a beaucoup écrit sur le deuil, et qui nous explique ces différents stades. Alors, il y a d'abord le fait d'apprendre que la personne est décédée, et donc là on peut être sous le choc, on est choqué. Il peut y avoir déni qui accompagne ce choc.
Alors ce déni, c'est-à-dire,
donc c'est le fait de
refuser que la personne soit
partie.
Voilà,
exactement. Et donc je sais pas moi, quelqu'un perd un conjoint qui est allé chercher une pizza et puis la personne n'arrive jamais, eh bien elle va rester calée dans il va arriver. Et des jours après, elle a l'impression de sortir la pizza qu'elle prend d'habitude, elle a l'impression qu'elle va entendre la porte et la personne va arriver. Et donc il y a un déni par rapport au fait qu'elle est partie. Alors, une fois ce déni estompé, on va alors ressentir la douleur. Ça fait mal que cette personne soit partie. Et donc, douleur. Des douleurs qui peuvent être morales, mais qui peuvent aussi se transposer dans le corps.
Oui.
Oui, ça peut être des douleurs musculaires. Ça peut être toutes sortes de choses qui se produisent dans le corps, tant la douleur morale, psychologique, émotionnelle est forte et donc elle peut impacter dans le corps. Alors, dans les différentes étapes, il peut y avoir une sorte de colère qui est là, où la personne va être fâchée sur ce qui s'est passé, fâchée sur la personne qui est décédée, fâchée sur le monde et en recherche de coupables. Il va falloir désigner quelqu'un qui est responsable. Si c'est un accident de la route, mais c'est la route qui a été mal faite ou
ouais,
c'est l'autre. Donc il faut trouver une cible pour décharger la colère. Mais la colère peut être aussi retournée contre soi.
D'accord. Est-ce que une personne qui est malade, on doit prévoir que si
oui.
elle est âgée, si elle est malade, malade incurable,
oui.
on doit s'attendre quand même à ce que cette personne s'en aille
voilà.
un jour ou l'autre.
Alors ça, dans des cas comme ça, je reviendrai après aux différentes étapes, moi, il m'est arrivé de faire des accompagnements au niveau de la personne qui va partir et de
son vivant. Vous avez fait des accompagnements de son vivant.
Du vivant de la
personne.
Avec
la
son
famille.
Conjoint, par exemple.
Hein, oui.
Où là, il y a vraiment une préparation. Et ça, c'est tellement réaliste de pouvoir faire ça avant. Parce que on sait vers où la personne va, on sait que qu'elle est condamnée. Enfin bon, même si parfois il y a des revirements de situation qui sont tout à fait inattendus, mais qu'importe, on fait un travail ensemble qui est un travail de préparation et où on va travailler sur l'acceptation de part et d'autre et sur la relation pour que la relation puisse être pacifiée, que tout le monde soit en paix dans la relation avant cette séparation.
Est-ce que ça marche?
Est-ce que ça marche?
Il faut que la personne quand même qui est donc devant vous accepte ce que vous lui dites.
Si elle vient, c'est qu'elle souhaite être là. Si elle vient, ça peut être des démarches qui sont initiées parce que il y a des douleurs, parce qu'il y a une difficulté au niveau du vécu de ce qui se passe, où on se retrouve malade face à la mort. Donc la démarche peut venir de là.
Oui.
Et moi, je peux inviter, demander à la personne. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'inviter votre enfant ou votre mari ou votre épouse pour qu'on fasse un travail ensemble? Après, les personnes, si elles viennent, c'est qu'elles sont demandeuses et que ça a du sens pour elles. Ça vient toujours de la personne de toute façon.
Vous en avez pour le moment?
J'ai pas pour le moment et je ne sais pas travailler ce type de situation de façon trop régulière et pas deux personnes en même temps dans mes suivis, parce que moi personnellement je vis ça comme
oui, justement, très dur. Par rapport à ça
c'est dur, ce sont des situations qui touchent très très fort, parce que c'est assez compliqué de ne pas
vous en prenez, vous en gardez quand vous avez
ça peut, oui, ça dépend. Il y a des situations qui sont très très dures. Si c'est travaillé avec un couple dont un des deux a un cancer, par exemple, et voilà, on sait que c'est irrémédiable et qu'on entend toute la souffrance du conjoint, c'est un peu difficile de ne pas se projeter. Ou si c'est un enfant qui a, je sais pas moi, 15 ans, 20 ans aussi, mais il y a quelque chose de vraiment pas juste, ce n'est pas dans l'ordre des choses de la vie, et qu'on accompagne le parent. Moi, ça me touche beaucoup, c'est très très dur, donc je ne sais pas travailler plusieurs cas de deuil en même temps.
Voilà. Comment, dans quel état êtes-vous quand vous avez fait donc une visite comme celle-là?
Moi, ça peut m'affecter, ça peut me rendre triste. Et c'est tout le travail en thérapie et en coaching, c'est le travail de l'auto-observation.
Donc vous accumulez quand même, votre personne accumule.
Alors,
quand même.
Oui et non. Quand on travaille dans la relation d'aide, il y a un aspect qui est hyper important, c'est l'auto-observation. Et donc c'est de pouvoir observer, mais tiens, là, qu'est-ce que ça me fait? Si ça me fait ça, c'est qu'il y a une blessure derrière et il faut que je bosse sur moi. Donc il faut pouvoir se retourner soi-même vers quelqu'un pour pouvoir faire de la supervision, pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir se reneutraliser quelque part, pour pouvoir accompagner l'autre. Parce que on ne saurait pas accompagner l'autre si on est soi-même trop impacté. Alors il y a une juste mesure, on fait pas ce métier si on n'est pas empathique.
Blindé.
Il faut les deux. Il faut pouvoir se protéger et il faut pouvoir être empathique. Si la souffrance de l'autre laisse totalement indifférent, on n'est pas fait pour ce métier. Donc l'auto-observation, c'est hyper important. C'est la capacité à pouvoir observer, tiens, ça m'impacte comme ça. Et avec nos propres outils d'analyse, avec mes propres outils d'analyse, je peux me dire, si ça m'impacte comme ça, c'est que j'ai besoin, moi, de travailler sur moi à tel et tel niveau. Et le deuil, ça c'est... Ça reste quelque chose, un sujet qui est très très délicat. Il touche à la vie, à l'impermanence de la vie qui est une réalité. Un jour on se parle et puis demain c'est fini. Donc l'accompagnement, il consiste, donc je disais, il y a la prise de conscience de ces différentes étapes du deuil, où on peut passer aussi par une étape qui est un peu de marchandage. C'est plus pour des personnes qui ont la foi foi, qui sont croyantes, qui vont plus dire, mais Dieu, si tu fais ça, si je fais ça, est-ce que tu pourras garantir le salut de la personne? Enfin bon, il y a toutes sortes de marchandages qui sont envisageables. Oui. Donc ça fait partie des étapes. Tout le monde ne passe pas par toutes les étapes, et pas nécessairement par celle de marchandage. Il peut y avoir une étape de dépression. La dépression peut devenir pathologique si elle dure au-delà de X mois. Enfin, on va pas mettre des chiffres parce que c'est vraiment quelque chose qui est très très personnel. Donc on peut vivre une dépression. Alors là, attention à la tentation de prendre des antidépresseurs. La dépression, c'est quand même un phénomène qui est naturel. C'est un phénomène de protection. Donc la dépression, qu'est-ce que c'est? C'est une baisse au niveau de l'énergie physique et mentale. C'est une réaction. Donc on a vécu une ou des choses qui sont trop dures et donc on ne veut plus s'exposer et le corps nous met dans un mode où on hiberne. Et donc c'est pour ça que dans la dépression, même des gens qui ont été pleins d'énergie, pleins de projets, ils ne se reconnaissent plus, ils aimeraient bien bouger, ils aimeraient bien avoir des envies, mais plus rien ne se passe. Tout est coupé physiologiquement dans le corps et tout est fait pour qu'ils aillent se cacher dans un trou pour se mettre à l'abri. C'est se mettre à l'abri, c'est je ne veux plus recevoir des coups de la vie et donc j'hiberne. Et donc cette dépression, elle est à vivre, elle est à accepter. Donc si on prend un antidépresseur, on ne pourra pas passer ce cap et rien ne sera réglé. Donc l'étape de la dépression, elle fait souvent partie et elle est tout à fait logique. Alors il y a une étape d'acceptation, une étape de reconstruction. Pour moi, l'étape d'acceptation, elle précède l'étape de reconstruction. Donc c'est vraiment là, je sors complètement du déni et je vais enfin accepter. J'accepte la situation, j'accepte que l'autre est parti, que jamais il n'arrivera avec sa pizza, que plus jamais je ne ferai que je n'irai avec des conférences avec l'autre, je partagerai mon lit avec l'autre, je suis dans une acceptation. Et une fois que j'ai accepté, alors je vais pouvoir tout doucement et à mon rythme. Ça, c'est une notion hyper importante dans le processus du deuil. C'est la notion de rythme. Je me reconstruis à mon rythme. Et parfois, se reconstruire après un deuil, eh bien, c'est carrément se construire. C'est se construire tout à fait autrement, vraiment d'une toute autre façon. Et donc, ces étapes-là, on les traverse chacun à sa façon. Parfois, on en saute. Parfois, elles sont dans un ordre qui s'agence différemment. Mais en gros, c'est ce qui se produit lors d'un deuil. Et donc, dans un accompagnement, c'est important que la personne puisse comprendre. Ben oui, c'est logique que je passe par là. Ben oui, je suis dans la colère. C'est normal et peut-être qu'elle va rester moins longtemps dans cette colère et être moins fâchée sur elle, fâchée sur les autres, fâchée sur une personne désignée, qu'elle va pouvoir reconnaître ce phénomène qui est là plutôt que de s'enliser dedans.
D'accord. Madame Prudhomme, si vous le permettez, on va passer un petit peu de musique afin que vous puissiez vous
aussi. On allège.
Voilà, tout simplement parce que c'est vrai que c'est un sujet très très lourd et c'est vrai que les personnes qui sont peut-être pour le moment où on parle dans la situation, on va voir comment vous pouvez les aider, donc tout de suite après la musique.
Oui.
Demain, je fais quoi quand t'es pas là? Tu peux pas me quitter comme ça. Je n'ai plus rien. Je sais pas dire je t'aime, ni être celle qui pardonne. Je te dédie ce poème. Si un jour tu m'abandonnes, je te dirai casse-toi même si j'ai mal. Si je te dis que je ne t'aime plus, c'est parce que j'ai mal. Je veux pas ton bonheur, je veux que t'aies mal comme j'ai mal. Si tu t'en vas, je te dirai casse-toi même si j'ai mal. Si je te dis que sais pas dire je t'aime, ni être celle qui pardonne. Je te dédie ce poème. Si un jour tu m'abandonnes, je te dirai casse-toi même si j'ai mal. Si je te dis que je ne t'aime plus, c'est parce que j'ai mal. Je veux pas ton bonheur, je veux que t'aies mal comme j'ai mal. Si tu t'en vas, je te dirai casse-toi même si j'ai mal. Si je te dis que je ne t'aime plus, c'est parce que j'ai mal. Je veux pas ton bonheur, je veux que t'aies mal comme j'ai mal.
Voilà, nous nous retrouvons maintenant tout de suite avec ce sujet qui nous interpelle toujours, parce que c'est vrai qu'on n'a pas facilement l'habitude de pouvoir se dire c'est le cours de la vie, chacun à un moment donné ou à un autre doit rendre son âme,
voilà,
comme on dit. Et mais c'est vrai que parfois on aimerait mieux rendre son âme à soi que de pouvoir assister à celle de quelqu'un d'autre qui vous est proche.
C'est vrai, c'est toute la douleur de la séparation, hein, où
c'est vrai ce que je dis, Madame Prudhomme.
Oui, hein, donc dit, ben, ça peut être effectivement, on peut retrouver ça aussi chez des parents, hein, qui perdent leur enfant et qui, avant que ça ne se produise, si on voit arriver les choses, mais que Dieu me reprenne, ou je préférerais moi
être à sa place
avant, voilà.
Maintenant, est-ce que c'est pas de l'égoïsme aussi? Peut-être pour ne pas endurer.
Alors, je ne sais pas si on va parler
la douleur.
Voilà, est-ce qu'on va parler vraiment d'égoïsme dans la perte de quelqu'un? Je veux dire, ça fait tellement mal de perdre un proche, de perdre quelqu'un qu'on aime. Maintenant, oui, si on veut aller un petit peu plus loin, il y a une notion d'égoïsme qui pourrait surgir. On dit, mais je vais perdre tout ce que l'autre me donne et tout ce que l'autre me renvoie. Si l'autre me renvoie une image très positive de moi-même, si l'autre est présent, si l'autre... il est là et bah, pendant toute notre vie ou pendant le moment qu'on a partagé ensemble, ça m'a amené beaucoup. La présence de l'autre m'a amené beaucoup. Mais oui, alors on peut questionner, se dire, mais n'est-ce pas un peu égoïste? Alors,
quand je dis égoïste, entendez bien, hein, le terme égoïste dans ce que je dis, c'est de se dire, si moi je pars avant mon époux ou mon épouse, comme on veut, si moi je pars, je n'aurai pas la douleur de devoir.
Je n'aurai pas la douleur, voilà.
Voilà.
C'est ça. Voilà, ça peut se produire. Ce qui peut se produire aussi, c'est de ne pas laisser partir une personne qui est en train de mourir. Ou voilà, c'est une personne âgée, elle a fait sa vie, c'est le processus normal, le vieillissement est là. Et la logique, c'est qu'elle parte. Et pour avoir travaillé avec des personnes qui travaillent en maison de repos, ça, j'ai eu certains témoignages qui m'ont assez interpellée, où la personne âgée, elle est en processus de fin de vie, donc elle est prête, elle, à mourir, le corps n'en peut plus, il a terminé, le corps, mais elle reste en vie, la personne reste en vie, ça tient à un fil, parce que elle attend. Parce qu'elle attend la visite de ses enfants à la maison de repos. Et donc, elle reste là, dans un maintien de vie, avec énormément de souffrance, parce que le corps n'en peut plus, mais elle lutte. Elle lutte pour rester en vie, parce qu'il y a cet enfant qui doit venir lui rendre visite et qui n'arrive pas. Ou autre cas de figure, c'est l'enfant qui ne laisse pas partir son parent, ou le conjoint, peu importe.
Comment ça?
Ben, c'est-à-dire, c'est le fait de il ne faut pas que tu partes, reste avec moi. Et là, il se passe quelque chose où le mourant, en fait, est dans une lutte pour s'accrocher à la vie, mais une lutte qui le fait vraiment souffrir. Et la personne n'est pas bien. Et donc, elle reste, elle combat. Elle combat pour rester en vie parce que l'autre ou les autres ne la laissent pas partir. Et ça, ce sont des situations vraiment très, très douloureuses. Et moi, j'ai eu l'occasion de croiser une personne qui, en maison de repos, apaisée, c'était absolument pas sa fonction, mais elle était plongée dans le milieu et elle voyait ce qui se passait. Mais elle m'a expliqué avoir accompagné plusieurs personnes âgées qui étaient vraiment dans une lutte et qui n'en pouvaient plus. Et naturellement, c'était ces théâtres qui devaient arriver, mais elles étaient dans cette lutte et dans ce combat. Et donc, c'est le fait de parler à la personne et de l'apaiser par rapport à sa vie, par rapport à l'acceptation de la mort, et la personne rentre dans une paix, et puis elle se laisse glisser naturellement vers la mort. Ça n'a rien à voir avec un suicide. Je veux dire, la mort était ce qui devait arriver. C'est un peu ce qu'on retrouvait davantage dans la fonction du prêtre qui accompagnait dans l'extrême onction, qui accompagnait le mourant. Et bon, je pense que ça se fait quand même de moins en moins. Les prêtres, ils perdent un peu du terrain au niveau de leur fonction sociale. Mais au niveau de l'accompagnement pour la mort, c'était une fonction qui, enfin, ça allait toujours, mais à moindre échelle, qui est vraiment hyper utile. On est dans le processus d'acceptation du mourant et des personnes de l'entourage.
Madame Prudhomme, est-ce qu'il vous est arrivé, ou probablement ça vous arrivera, je ne sais pas, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir quelqu'un qui vient vous trouver et vous dire: Madame Prudhomme, écoutez, j'ai ma maman ou j'ai mon papa qui va s'en aller. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de lui faire accepter que son papa ou sa maman va s'en aller. Mais est-ce qu'il vous est arrivé également, cette personne, d'être avec la personne mourante?
Oui,
vous,
oui.
Oui, qu'est-ce qui se passe? Allez, expliquez-nous.
Ah non, pas, alors moi j'ai déjà été en contact avec des personnes qui sont pas pas mourantes, mais qui sont dans la maladie, et où ça a été malheureusement confirmé par les médecins, où il n'y a pas d'issue. Et donc la personne...
Donc vous savez qu'elle va...
Qu'elle va partir. Donc là, c'est un accompagnement où je vais questionner la personne au niveau de ses croyances. Si c'est une personne qui a la foi, ça va être aidant. Si elle croit en Dieu, si elle croit, je ne sais pas, en des anges gardiens, en des divinités, enfin, peu importe, là, ça va quand même être hyper important comme soutien. Donc ça va être intégré dans la
thérapie.
Alors c'est hyper hyper personnel, la relation qu'on a à la mort, elle raconte notre relation à la vie. C'est juste ça que ça raconte. C'est un peu c'est carrément un bilan de bébé. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que je suis dans la satisfaction par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je n'ai pas vécu, par rapport au choix? Est-ce que j'ai eu l'impression de ne pas avoir pu choisir des choses dans ma vie? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la rancœur par rapport à ça? Et quand on est face à la mort, ben, c'est tout ça qui est là. Vous dites, mais voilà... qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et dans quel état est-ce que je suis maintenant que je vais quitter cette vie avec... est-ce que je quitte en me disant, mais waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Ou est-ce que je quitte en me disant, je n'aurais pas dû faire ça, ou je n'aurais pas dû orienter ma vie comme ça? La mort, c'est ça que ça raconte. Ça raconte un bilan de vie.
Donc en fait, vous êtes l'oreille à l'écoute.
Je crois que ça va un peu au-delà de ça, hein, mais pour pouvoir intervenir, il faut d'abord vraiment bien écouter, bien observer, parce que il y a aussi des choses qui se disent, mais en fait, voilà, ça ne reflète pas ce qui est dans les tripes, hein, comme vous disiez tout à l'heure. On a beau parfois se raisonner, dire mais oui, c'est normal, la personne avait tel âge et c'est la logique de la vie. Voilà, ça c'est le mental, ça c'est le rationnel, mais ce n'est pas ce qu'on vit nécessairement. clairement dans les tripes. Donc il y a une écoute, il y a aussi une observation un peu de tous les signes non-verbales et paraverbales.
Et Madame Prudhomme, quand vous êtes avec un patient donc, qui sait que ça va se terminer à courte échéance,
oui.
Quand cette personne s'en va, quel est votre sentiment? Est-ce que vous allez à l'enterrement? Est-ce que vous l'accompagnez jusqu'au bout? On va dire.
Moi, je fais non. Je ne me déplace pas ni non. Je ne fais pas. Je ne vais pas jusque là. C'est voilà. Ce serait beaucoup trop impliquant. Par contre,
il faut que vous vous détachiez. Que vous ayez un point oui. où vous devez détacher. Oui. C'est terminé. Bon, voilà.
Voilà. Par contre, ça peut être prendre des nouvelles de la personne qui reste. Ça, oui. Mais aller un enterrement, non, ça je...
Oui, mais c'est quelqu'un que vous avez suivi pendant, jusqu'à ces derniers moments, quoi.
Oui. Néanmoins, là, je pense que ça sort...
De votre cas.
Ça sort de mon rôle. Et ça pourrait être aussi...
Néfaste pour vous.
Oui, impactant et voilà, et trop dur.
Et très lourd.
Oui,
et très lourd.
Oui, oui, oui.
Parce que c'est vrai que quelqu'un que vous avez suivi pendant X temps... Et puis, du jour au lendemain, cette personne s'en va. C'est vrai que ça ne doit pas être évident, hein, parce que tout le travail que vous avez fait... Maintenant, c'est vrai que le travail que vous avez fait l'a peut-être aidé aussi.
Ah, c'est le but, hein, c'est le but. Ça, c'est de pouvoir réaliser qu'on a accompagné la personne. C'est un travail qui a trait à la paix, hein, à se pacifier par rapport à ce qu'est la mort, qui est inhérente à la vie. C'est un travail sur la paix. Donc je dois, moi, être en paix pour pouvoir le faire et pouvoir prendre une certaine distance pour faire un bilan et de se dire, voilà, on a mis ça en place. La mort est inéluctable et voilà, ce qui devait être fait, ça a été fait. Il y a aussi des accompagnements qui se font par la suite. Il y a des gens qui restent, c'est tellement dur, qui restent calés dans ce déni où ils sont coupés de leurs sentiments. Ils restent vraiment dans la tête et ils n'acceptent pas. Et donc, ils ne ressentent jamais cette douleur. Et malheureusement, je parlais des antidépresseurs anxiolytiques, etc., où c'est souvent accompagné d'une prise de médication où qui va couper, qui va vraiment couper la personne. Hein. Alors là, la personne peut démarcher, ça peut être étonnant, hein, parfois après 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans de la perte de l'être cher. C'est, mais j'ai un travail à faire sur moi, et la personne vient en thérapie après.
C'est jamais trop tard?
Alors, ce n'est jamais trop tard et il est toujours temps. Quand on a perdu un proche, je pense que c'est vraiment pas du luxe que de se faire accompagner en coaching, en thérapie, pour pouvoir oser passer le cap. Parce qu'il y a quand même des pièges. Il y a le piège de vouloir se reconstruire très très vite. Où on voit par exemple des personnes qui se remettent en couple après avoir perdu un partenaire et qui sautent dans une nouvelle vie de couple très très rapidement. Alors, d'un côté, on va leur dire chapeau parce que elles résistent à la pression sociale qui est que, ben, socialement, on doit afficher une tristesse et on doit arrêter sa vie après avoir perdu l'autre. Donc, il y a une certaine pression sociale. Si elle est dépassée, on se dit waouh. Néanmoins, le revers de la médaille, c'est que plonger dans une nouvelle relation directement à après avoir perdu son conjoint.
Ça fait jaser, quoi.
Oui, ben bon, ben ça, si on passe outre ça, je veux dire, c'est très très bien. Mais le revers, c'est qu'on n'aura pas le temps de faire son deuil de l'ancienne relation. Déjà, on sait, si on est dans une rupture traditionnelle, recommencer une relation directement derrière, la probabilité pour qu'elle soit, pour qu'elle soit constructive et qu'elle soit bien, qu'elle soit équilibrée, elle est quand même relativement basse. Mais alors si c'est après un décès, on a très peu de chance. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on perd quelqu'un, on a des deuils à faire. Je dis des, pas un deuil. Ce n'est pas la personne uniquement qu'on perd, mais c'est aussi des représentations qu'on avait par rapport à une situation idéale. C'est-à-dire, je perds mon parent, alors je perds effectivement physiquement mon père, mais je perds aussi la représentation que j'avais du père idéal. Un père idéal, il a été là pour moi, il m'a regardé grandir, il m'a aidé à grandir, il m'a apporté des choses. Et il se fait que mon père n'a pas pu me donner ça. Et donc quand je perds mon père, eh bien je fais le deuil de ce père physique, mais aussi de ce père idéalisé, ou de ce conjoint idéalisé. J'aurais toujours rêvé d'avoir un conjoint qui soit là pour moi, qui soit une épaule, qui se réjouit avec moi. Et puis ce conjoint, en fait, il était très tyrannique et il n'était pas ce conjoint rêvé. Donc oui, quand je perds mon conjoint réel, je perds aussi le rêve, la représentation que j'avais. Donc il y a une confusion, qui est là. Et donc si je recrée une relation directement après, cette confusion va faire que je ne vais pas pouvoir vivre pleinement la relation et pouvoir identifier et reconnaître l'autre tel qu'il est vraiment. Donc je vais encore avoir mon rêve qui est là, mon fantasme de la relation idéale. Je rentre dans une nouvelle relation avec ce rêve de relation idéale. Je vais continuer à comparer le nouveau conjoint avec l'ancien conjoint, embrouillé par ma représentation du conjoint idéal. Et je ne suis pas dans ma vraie vie, je ne suis pas dans la vraie relation. Et on n'y est pas investi, et donc ça ne saurait pas fonctionner. On ne voit pas non plus ce qui s'y passe réellement. L'autre aussi est dans un rôle de sauveur. Il va me sauver de mon désespoir. Et donc tout est tronqué, tout est pipé. Et donc la probabilité pour que ça fonctionne, elle est assez faible. Ça peut marcher, hein, ça peut fonctionner, mais c'est pas se donner toutes les chances. Se donner toutes les chances, c'est vraiment d'abord pouvoir se reconstruire, parce qu'on ne sera pas la même personne à l'issue du deuil. Et après s'être reconstruit, stabilisé, donc c'est se stabiliser soi, après on est davantage prêt pour commencer autre chose.
Maintenant, ne pensez-vous pas, vous, que par exemple, une personne qui perd son papa, sa maman, je vais dire comme ça, hein. Donc l'enfant qui reste, il se dit dans son inconscient, après mon papa, après ma maman, il ne reste que moi, oui. Donc c'est moi le suivant. Est-ce que ça pose des problèmes, ça, au niveau des personnes qui viennent vous trouver?
Oui, ça c'est quelque chose qui est souvent...
On se dit, la vie est raccourcie. Exactement. Puisque maintenant il ne reste plus que moi. Et donc, plus personne derrière moi.
Voilà, donc là, ce qu'on va questionner, c'est la relation qu'on a à la vie, et donc, qu'est-ce que nos morts nous apprennent? Nos morts, ils nous apprennent énormément. Tout événement de vie nous apprend à dire, mais papa, maman, ou mon mari, mon épouse, tu es parti, ou mon enfant, tu es parti. Mais qu'est-ce que tu m'apprends? Qu'est-ce que tu m'apprends de la vie? Et donc là, c'est une invitation à vivre autrement. Alors, dans les accompagnements que j'ai, ce que j'entends je vais pas dire souvent, mais ce que j'ai déjà entendu, c'est oui, la vision et la perception qu'on a de la vie, eh bien, elle est changée. Et donc, on met d'autres choses en place dans sa vie. Parfois, c'est temporaire, et parfois, c'est sur du long terme. Donc, nos morts, ils nous font prendre conscience de la vraie nature de la vie, c'est-à-dire de sa fragilité et de son impermanence. Et donc, ils nous apprennent ça. Et donc, l'idée, c'est maintenant, je fais quoi de ma vie à moi? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie à moi, puisque la mort est là, hein, donc elle est présente, la mort. Le problème de nos sociétés, c'est qu'on ne vit pas des masses avec le contact de la mort. Il y a des sociétés, comme par exemple chez les Tibétains ou dans le bouddhisme tibétain, la culture de la mort est bien présente dans la vie. Ça fait partie de la vie. On célèbre, on travaille la mort au quotidien. Tandis que chez nous, on est avec un certain retrait, on est dans une culture du jeunisme, hein, on est dans une culture où c'est la jeunesse qui est favorisée, il faut paraître plus jeune, il faut être performant, voilà, le jeunisme, ça fait partie de notre culture. Et cette culture du jeunisme, eh bien, elle nous éloigne de la présence de la mort et de l'acceptation de la mort.
D'accord. Pour un animal, c'est pareil, Madame Prudhomme.
Alors,
la perte d'un animal.
La perte d'un animal, ça peut vraiment faire très très mal. Perdre un animal, ça dépend comment il est investi. Il y a des animaux qui sont humanisés, hein, où ils sont vraiment, ils sont habillés, on leur parle comme si ils comprenaient, ils captent beaucoup de choses, mais notre langue, on ne parle pas la même langue qu'un chien ou qu'un chat. Néanmoins, il peut y avoir énormément d'échanges communicationnels avec un animal. Un animal, pour une personne qui vit seule, ça peut être énorme. Je rentre chez moi, je suis accueillie par mes chats, je suis accueillie par mon chien. Je lui dis bonjour, je lui dis c'était pas comique aujourd'hui, ou au contraire j'ai bien rigolé aujourd'hui, et c'est ok d'avoir cet échange avec l'animal, mais l'animal va prendre énormément de place, va participer à l'équilibre de la personne ou du couple ou de la famille. Si vous regardez dans la relation de couple, le chien, il peut vraiment servir à trianguler. C'est une tierce personne et on va s'adresser au chien pour faire passer un message taquin à l'autre, où il fait partie des interactions. Donc il peut prendre une place qui est énorme, et donc quand l'animal s'en va, ça peut vraiment déstabiliser, ça peut faire perdre tout un équilibre, et puis il y a tout ce chagrin qui est là, parce que avec l'animal aussi, ce qu'il y a, c'est que très souvent, on est dans du tactile, on va toucher cet animal, on va le prendre dans ses bras, on va le caresser, on va voir cet échange où il y a ce chat, où il y a ce chien.
Qui ne demande rien en contrepartie.
Qui ne demande rien en contrepartie et qui peut représenter tout ce qu'on aurait espéré dans notre relation à l'humain. Donc là, à nouveau, on va être dans un contexte où on va faire plus qu'un deuil, mais des deuils. Ce chien qui m'attend, que je rentre à 2h de l'après-midi ou 11h du soir,
il est content.
Il est content, il ne me reproche rien. Et ça, cet accueil, il va représenter l'amour inconditionnel. Et peut-être que je n'ai jamais reçu cet amour inconditionnel de parents, de conjoints, de personnes de mon entourage. Et ce chien, il matérialise ça. Il me donne cet amour inconditionnel. Et donc, en perdant cet animal, je ne reçois plus cet amour inconditionnel dont on a tous besoin. Et parfois, on n'a pas eu ça dans notre construction. Donc, ça peut faire énormément de mal de perdre un animal. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui perd un animal et que vous ne comprenez pas, ne le jugez pas. Et soyez là pour la personne. La seule façon de pouvoir aider dans le deuil, que ce soit pour un animal ou que ce soit pour une personne, c'est d'être à l'écoute, vraiment à l'écoute, et de pouvoir demander à la personne, dis-moi comment je peux t'aider, dis-moi ce que je peux te dire ou pas, parce que je ne sais pas. Il y a des choses qu'on peut dire à quelqu'un qui est dans le deuil et qui font vraiment très mal. On le dit pour bien faire, mais on ne sait pas comment ça touche la personne.
D'accord.
Donc la première chose à faire, c'est vraiment, quand on est proche, c'est de pouvoir dire à l'autre, dis-moi comment je peux t'aider, dis-moi ce qui te fait plaisir à entendre ou pas, mais de pouvoir verbaliser qu'on se sent démuni. Je me sens démunie par rapport à ta situation, et dis-moi ce que je peux faire, si ça te fait plaisir que je vienne, si ça te fait pas plaisir, dis-moi.
C'est parfait. Sur ça, après, donc, comme l'a dit Madame Prudhomme, donc, si c'est pour la perte d'un animal, ne vous en moquez pas. Essayez quand même de pouvoir aider la personne qui a perdu son animal, qui pour elle est comme un humain, tout compte fait. et qui lui a donné beaucoup de satisfaction durant sa vie, surtout quand c'est un chien qui est déjà âgé, qu'on a vécu avec 16, 17, 18 ans. C'est vrai que c'est un membre à part entière de la
Exactement,
famille.
Exactement, oui, tout à fait.
Ben voilà, c'est un sujet très très lourd, on pourrait encore épiloguer là-dessus pendant des heures.
Ah oui, il y a beaucoup à dire, oui.
Vous êtes intarissable, de toute façon.
Je peux m'arrêter.
Non, ne vous arrêtez pas. Mais enfin, pour l'émission, il faudra bien. Voilà, oui, on n'a pas trop le choix.
Le temps passe
vite.
Hein.
Madame Prudhomme, le mois prochain, donc, ce sera le 21 février qu'on vous retrouvera. Et on parlera de quoi ? Dites-nous, alors, un sujet plus léger.
Voilà, un sujet plus léger, on va le dire. Donc, on va parler des émotions et de l'appétit. Hein, on peut faire un lien avec cette thématique-ci. Comment est-ce que nos émotions vont impacter notre relation à la nourriture ? Il y a des gens qui mangent quand ils sont très joyeux, d'autres quand ils sont très tristes, donc d'autres quand ils sont...
Voilà, en fait, c'est le comblage.
Voilà, ça peut être le comblage, ça peut être un tas de fonctions directes ou indirectes. Parfois, on a des émotions et puis ce n'est que quelques heures ou quelques jours après qu'on va avoir une réaction avec la nourriture. Mais nous sommes généralement très, très tributaires de nos émotions dans notre comportement alimentaire. Et donc, voilà, on parlera de ça la fois prochaine.
Voilà, d'accord. Alors, si vous avez besoin de Madame Prudhomme, n'hésitez surtout pas à la contacter. Elle a donc deux cabinets. On dit des cabinets ?
Oui, oui.
On dit des cabinets, donc on pourra mettre ça. Elle a deux cabinets. Un à Auris et le deuxième se trouve, lui, à...
À Jemep.
Voilà.
À Jemep. Et vous pouvez consulter sur le site, donc c'est hypnoseprudhomme.be. Puis elle aura le numéro de téléphone qui est le 0478 99 71 57.
À faire en priorité avant de vous rendre sur place.
Ah, c'est uniquement sur rendez-vous, oui, de
Parce
toute
que
façon.
Pour Madame Marie-Pierre, Madame Prudhomme, elle a donc des patients. On dit des patients aussi pour vous
on les nomme,
ou des consultants.
On les nomme clients, patients, c'est réservé à la médecine.
D'accord. Donc, les clients, elle en a donc à ses consultations. Donc, n'aboutissez pas chez elle. Elle ne pourra peut-être pas vous recevoir, tout simplement.
Ce sera pas possible.
Ce sera pas possible. Et donnez un petit coup de téléphone avant. Elle vous fixera un rendez-vous. Et là, vous ferez ce que vous avez à faire avec Madame Prudhomme, qui vous aidera dans la manière la plus aisée pour vous et pour elle également. Donc, parce que c'est vrai que malgré tout, vous accumulez quand même, Madame Prudhomme.
Il y a des choses à mettre en place pour prendre une distance. Hein. On se dit, voilà, c'est un magnifique métier. Moi, j'ai pas l'impression de travailler, mais il y a des choses à mettre en place quand on est dans l'accompagnement par rapport à la souffrance de l'autre pour pouvoir prendre une certaine distance. Et c'est cette distance aussi qui va permettre d'utiliser correctement les outils.
Bien. Alors cette émission, vous pourrez la réentendre si vous n'avez pas eu l'occasion ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui ne pouvait pas donc l'écouter, vous pouvez la retrouver sur le site de www.eroa.be en podcast. Elle sera mise d'ici demain, elle sera en vous pouvez l'écouter autant de fois que vous le désirez. On essayera, Madame Prudhomme, de faire un petit message pour rappeler le 21 donc via la radio.
Super.
Un grand merci à merci. Vous. Merci de vos connaissances, merci de nous les faire partager. Et puis encore un grand merci d'être venu nous retrouver ici
plaisir.
À Radio Hourtemblève.
Toujours
merci,
un grand
Madame
plaisir
Prudhomme.
D'être là avec
merci,
l'équipe.
Isabelle.
Merci Isabelle. Merci.